BFM Business et 01 TV présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et bonjour à vous toutes et à vous tous, très heureux de vous retrouver comme chaque semaine, vous le savez, pour De quoi je me mêle, à la fois sur l'appli RMC, sur l'appli BFM Business, sur 01 TV en vidéo, sur YouTube et sur 01net.com. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on évoquera le marché du PC qui a étrangement évolué ces derniers mois, évidemment du fait de la pandémie. On en parlera avec le directeur marketing et communication du constructeur taïwanais Acer, et on verra aussi les nouveautés qui nous attendent pour l'année 2021. Je vous rappelle que, bien sûr, comme à chaque fois, vous pouvez réagir au contenu de ce De quoi je me mêle avec la page Facebook, le hashtag DQJMM sur Twitter, et on commence bien sûr par le club de la presse IT. Bienvenue à vous tous. Le club de la presse IT avec cette semaine Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas.
Bonjour François.
Journaliste à 01net.com et Raphaël Grabli nous fait l'amitié d'être là aussi. Salut Raphaël. Journaliste à BFM Tech bien sûr. Et ensemble on va commenter l'actu de cette semaine et commencer par ce séisme du côté de chez Amazon. Nicolas, Jeff Bezos annonce quitter son poste. Il a annoncé il y a quoi? Il y a quelques heures. Il va prendre un peu de recul. Par rapport à Amazon.
C'est un peu la surprise, on ne l'avait pas trop vu venir. Il y a souvent, c'est souvent comme ça, en même temps, les départs de grands fondateurs d'entreprises, on ne sait pas trop quand ça va arriver. Et c'est au moment de l'annonce des résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2020 que Jeff Bezos a annoncé qu'il allait quitter son poste de CEO d'Amazon pour devenir chairman, donc directeur du conseil d'administration. En soi, il n'y a pas grand-chose qui va changer, paraît-il. Il va continuer à superviser les projets de nouveaux produits Amazon. Il va continuer à bosser sur le futur d'Amazon. Maintenant, il n'a plus le temps aujourd'hui de Jeff Bezos pour s'occuper des affaires courantes. Donc il va donner le rôle de CEO à son fidèle bras droit Andy Jassy, qui est avec lui depuis 1997. Et donc dans l'idée, Jeff Bezos, à partir de cet été, normalement le mois de juillet, ne sera plus le patron d'Amazon.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que peut faire l'homme le plus riche du monde, Raphaël?
On le voit sur les images, il va s'intéresser à Blue Origin, il va s'intéresser à l'espace. Je pense qu'il va, prendre de la hauteur au sens propre et au sens figuré. Je pense qu'il a envie de... Je pense qu'il a envie d'avoir un parcours peut-être à la Bill Gates, en fait, c'est-à-dire pouvoir faire...
Bill Gates, qui pendant longtemps a été chairman de Microsoft.
Oui, il a inspiré
de Bill Gates, il a envie, il a d'autres aspirations. C'est vrai que quand on est l'homme le plus riche du monde, on a quand même un luxe humainement, tout simplement, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Et je pense qu'il a, il a d'autres aspirations. Il voit qu'Amazon tourne parfaitement. C'est pas anodin, d'ailleurs, le fait que ce soit son bras droit qui reprenne la direction, parce que il s'occupe du cloud. C'est pas le directeur d'Amazon. Enfin, c'est pas la partie vente, c'est le cloud. Donc, ça en dit long aussi sur la stratégie qui a été prise par Amazon. Et d'ailleurs, ça me rappelle un peu quand Tim Cook est arrivé chez Apple à la tête d'Apple. Tim Cook s'occupait de la distribution. Et donc, on est arrivé dans des démarches beaucoup plus...
financières.
Voilà, financières. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant de voir... Alors évidemment, Apple, ça s'est fait dans des conditions dramatiques avec la mort de Jobs. Mais c'est toujours très intéressant de voir le mouvement que prend une entreprise après le départ de son fondateur. On l'a vu avec Bill Gates, on l'a vu avec Apple, on le voit avec Amazon. Ça en dit long sur la stratégie, je trouve, sur le nom du remplaçant. Et... Donc, mais il n'y aura aucun changement majeur. Mais je pense que Jeff Bezos, il a quoi? Il a 57 ans
ou... Oui, 57
ans. Bon, je pense qu'il a, envie de se détacher un peu des affaires courantes. Et je pense qu'Amazon est entre de bonnes mains. D'ailleurs, ils ont battu un record de résultats puisqu'ils ont fait 100 milliards sur un trimestre, 100 milliards de chiffre d'affaires. Évidemment bien aidé par la situation sanitaire.
Ils ont fait presque 400 milliards rien qu'en 2020.
Ouais. Voilà,
c'est hallucinant.
Donc en plus, il y a le nouveau siège qui va arriver. C'est vraiment une étape de transition et je pense qu'il a jugé que c'était le bon moment. Même si ça, je pense pas que ça chamboule grand chose.
Non. Voilà. Et puis, comme tu le disais, Nicolas, il reste quand même malgré tout.
Il va rester. Et après, Andy Jassy, il supervise depuis 2006 les services cloud, mais depuis 1997, il est là. Amazon, ça a été fondé en 94. Donc, il est arrivé à Amazon, c'était un bébé. Autant vous dire que ça vendait que des livres à cette époque. Donc, il connaît Amazon par cœur. Il connaît la philosophie de Jeff Bezos par cœur.
Bien sûr.
Et c'est dans la continuité. Et si on regarde justement. Raphaël a comparé avec la transition Steve Jobs-Tim Cook, où on peut même voir aujourd'hui Satya Nadella qui a repris Bill Gates. Généralement, ces personnes qui viennent du monde de la finance, qui reprennent le bébé d'un fondateur, d'un géant de la tech, eh ben, ils font mieux. Ils arrivent à faire croire l'entreprise. Il y a moins justement cet attachement, il y a plus de responsabilité. Il va avoir beaucoup de missions, on dit déjà. C'est lui qui va se prendre toutes les attaques de l'Europe, des régulations des États-Unis. Tout ça, ça sera pour lui. Mais normalement, Amazon est en de bonnes mains. On n'est pas du tout inquiet pour Amazon et Jeff Bezos est dans le coin.
Ouais. Il faut avoir quand même les épaules assez larges pour se retrouver à la tête de l'une des toutes premières boîtes mondiales.
Comme
quoi.
Tu c'est dis ça Nico, il faudra un jour, très bientôt je pense, faire peut-être des bouquins ou des séries sur Tim Cook, parce que franchement, la valeur d'Apple en 2011 quand Tim Cook a repris en main l'entreprise aujourd'hui, je pense que Tim Cook, sous l'ère Tim Cook, Apple a pris bien plus de valeur, alors c'est économique, que sous l'ère Steve Jobs.
C'est ça.
Et c'est vrai que le rôle du successeur est parfois encore plus important que le rôle finalement du fondateur. Alors évidemment, il y a le génie de Steve Jobs.
Oui, enfin, oui. Ça c'est un peu retiré.
Il est temps, ça fait pile 10 ans d'ailleurs. Je pense qu'à l'occasion de la décennie de Tim Cook, je pense qu'il faudra aussi regarder ce qu'a fait Tim Cook et on se rend compte que le successeur fait parfois financièrement mieux que le fondateur.
Raphaël, alors bon, Amazon qui rit et Xiaomi qui pleure. Hein. Alors là, on est dans un autre domaine, hein, puisque vous le savez que Xiaomi a été mis sur cette liste noire des entreprises chinoises par les États-Unis, on n'a pas trop compris pourquoi, et que Xiaomi, visiblement, n'a pas envie de se laisser faire.
Non, ils vont déposer plainte, ils vont essayer de lutter juridiquement. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que, évidemment, on compare ça avec ce qui s'est passé avec Huawei. Initialement, ce qu'avait dit Trump, ce qu'avait dit l'administration américaine concernant Huawei, c'est une question de sécurité nationale parce que Huawei fait des antennes. Bon, en fait, là, Xiaomi, ils font pas d'antennes 5G.
Non, ils font que des produits d'entertainment, finalement.
Exactement, donc on comprend très bien. Donc finalement, ça en dit long sur les raisons, évidemment, qui ont poussé les Américains à sortir Huawei du pays. Alors, il y a des raisons sur les antennes qui sont... C'est vrai, mais ce n'est pas l'argument principal. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est simplement pousser Xiaomi hors du pays parce qu'il y a une guerre qui est une guerre purement commerciale qui est en train de se produire. Et Xiaomi se positionne... En fait, c'est un coup dur pour Xiaomi aussi parce que Xiaomi, aujourd'hui, il se présente comme le Huawei qui a Google. D'ailleurs, il suffit de voir leur pub à la télé, d'ailleurs en France. Moi, ça me fait marrer parce que leur pub à la télé, c'est avec ce service Google, avec ce service Google. Enfin, ils mettent que du Google dans leur pub pour bien dire non, on n'est pas Huawei. Nous, on est des Chinois avec un très bon rapport qui a été pris, mais nous, on a Google. Et donc, les États-Unis, ça, ils n'ont pas envie de le laisser passer. Effectivement, je pense qu'ils vont répliquer. Après, ça montre aussi, la question, c'est aussi ce que va changer à l'arrivée de Biden sur ce terrain-là. Et visiblement.
Oui, parce que c'est Trump qui avait pris cette décision de mettre sur la ligne.
Visiblement, on est 5 jours avant son départ.
Ouais, et on n'est pas sûr du tout que l'arrivée de Biden détende les liens comme on pouvait l'attendre. On se disait, fin de Trump, ça va être le retour de Huawei. Pas du tout.
Mais Nicolas, est-ce qu'on peut s'attendre au même sort pour Xiaomi que Huawei? Parce que est-ce que Xiaomi pourrait être privé des services Google, par exemple, suite à cette décision?
Pas du tout, parce qu'il y a deux listes noires aux États-Unis.
Ça se complique.
C'est ça. Il y a l'Entity List qui est rattachée au ministère du Commerce et la Military List qui est rattachée au ministère de la Défense. Huawei, ils sont sur les deux. Comme ça, c'est réglé. Xiaomi sont que sur la liste militaire parce qu'ils sont classés comme une entreprise chinoise militaire du Parti communiste. Bon, c'est quand même un terme qui peut être peu élogieux quand on ne fabrique pas de produits militaires. Maintenant, comme ils ne sont pas sur liste commerciale, ils ont droit de travailler avec des entreprises américaines, ils ont droit d'acheter des processeurs Qualcomm, et ça, pour l'instant, ils ne sont pas du tout menacés. Par contre, à cause d'une loi signée par Donald Trump, à partir du 11 novembre, toutes les entreprises sur cette liste noire militaire seront dans l'obligation de se séparer de leurs investisseurs américains. Donc tous les Américains, les entreprises américaines qui ont financé Xiaomi devront reprendre leur argent et donc du coup Xiaomi va avoir évidemment un problème financier. Donc c'est ça ce que
Il y a beaucoup d'investisseurs américains chez Xiaomi.
Il y en a beaucoup. Pendant longtemps il y a eu Qualcomm, c'est plus le cas. Qualcomm n'est plus investisseur de Xiaomi, mais il y en a forcément. Et dans tous les cas, pour une entreprise, le fait d'être sur liste noire dans un pays comme les États-Unis, ça va freiner leur croissance et c'est pas bon du tout. Ils pourront pas se développer aux États-Unis alors qu'ils ont une ambition sur les produits connectés, pas trop sur les smartphones, mais sur les trottinettes notamment. Donc il y a cette inquiétude pour eux et ils considèrent que la décision de Trump, elle est illégale parce qu'il n'y a pas eu une procédure régulière. On n'a pas fait un procès pour savoir si Xiaomi était une entreprise. On l'a inscrit sur la liste noire directement. Donc ils peuvent gagner. Je suis d'accord avec Raphaël. Je pense que Joe Biden ne va pas changer de politique du tout. Au contraire, il va plutôt maintenir ce que fait Donald Trump Pardon, ce qu'a fait Donald Trump, mais à voir si Xiaomi ne peut pas s'en sortir.
Mais c'est vrai que le vrai coup dur, ce serait qu'ils soient sur l'autre liste noire et qu'ils ne puissent pas travailler
avec... La liste noire commerciale.
Là, ça serait beaucoup plus problématique.
Xiaomi sans Qualcomm, là, ça commence à être... D'ailleurs,
c'est foutu.
C'est foutu. Donc, on voit bien ce qui se passe avec Huawei. D'ailleurs, il y a des rumeurs de vente de la division mobile. Ils ont vendu Honor. Il y a des rumeurs même de vente de toute la division mobile parce qu'ils se rendent compte que développer des processeurs et surtout des architectures de processeurs, c'est très compliqué.
Honor qui est peut-être en train de revenir. Hein. J'ai lu 2-3 articles comme quoi ils préparaient leur retour avec de nouveaux investisseurs, avec le retour de Google. Visiblement, ça serait pour le Mobile World Congress qui a été décalé en juin, hein, comme vous le savez. Ils attendent lancer de nouveaux smartphones et ils ont comme ambition en fait de faire mieux que les meilleurs smartphones des constructeurs. Donc à voir un peu aussi bon si c'est faisable ou pas. D'autres résultats intéressants, c'est ceux de Sony et de Nintendo. On parle de jeux vidéo, Nicolas. Sony et Nintendo qui cartonnent, et notamment Sony avec la PlayStation 5. Hein.
Oui, le jeu vidéo cartonne en général. Hein, c'est une magnifique année. C'est bien, merci la pandémie, hein, comme beaucoup de secteurs dans la nouvelle technologie. Quand on passe du temps à la maison, on joue, on fait du sport, on passe du temps sur ses ordinateurs. Donc ça cartonne. On commence par Sony. Donc eux, pour le coup, c'est pas forcément grâce à la pandémie, c'est grâce à l'arrivée d'une nouvelle génération de consoles. On s'attendait à ce que les ventes de la PS5 ne soient pas bonnes à cause de la pénurie. On sait que la demande est là, mais on sait que Sony a du mal à les fournir. Pourtant, entre le 3 novembre et le 31 décembre, ils ont quand même vendu 4,5 millions de PS5. C'est autant que la PS4 sur ses 3 premiers mois de commercialisation. Donc on peut dire que c'est un succès, c'est complètement réussi. La PS5, elle a trouvé un marché. Le seul problème de cette situation, c'est que les 4,5 millions, c'était tout le stock, mais qu'il n'y en a plus. Donc ils fabriquent au compte-gouttes, ils essayent de les couler. La question, c'est qu'est-ce qui se passera en mars quand on aura les résultats trimestriels pour les 3 premiers mois de l'année. Est-ce qu'on ne va pas avoir une grosse chute des ventes, ou est-ce que Sony va malgré tout réussir à répondre à la demande?
D'ailleurs, ils ont fait le call pour les résultats avec des journalistes, ils ont précisé qu'ils étaient toujours en pénurie de semi-conducteurs et de composants divers. Ils ont dit que ça va rester compliqué. Donc effectivement, comme tu dis, les PlayStation 5, ça va être jusqu'au milieu de l'année 2021. Oui. Ça va être très compliqué d'en trouver. Et Sony a déjà prévenu qu'effectivement, ils auraient du mal à fournir, sachant que ce qu'ils ont déjà vendu, ils l'ont vendu en partie à perte. Parce que les lignes de production ne sont pas encore rentables, ça vient d'être lancé.
Ouais. Et puis ça coûte cher une console de nouvelle génération.
Et puis, le but, c'est de se construire un parc et d'inonder le marché le plus vite possible pour ensuite vendre les accessoires, les jeux, les abonnements, parce que je crois que j'avais vu les chiffres, c'est 85% des possesseurs de PlayStation 4 sont abonnés, et PlayStation 5, ça doit être pareil, au PS Plus.
C'est ça. Et là, aujourd'hui, si on regarde en proportion les ventes chez Sony, les DLC, c'est 44%, les abonnements, 18%, et les jeux dématérialisés, 29%.
Donc le matériel n'est plus qu'un prétexte pour vendre le logiciel et l'abonnement. Et donc, finalement, faire de l'argent sur la console, c'est un one-shot, c'est pas très intéressant pour eux, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'implanter son parc en termes de console, même si la PS4, aujourd'hui, évidemment, il s'en vend moins, mais elle devient rentable parce que la ligne de production, elle tourne et qu'ils font des économies d'échelle.
Sony va bien, Nintendo aussi.
Nintendo aussi, Nintendo c'est 79,87 millions de Switch.
Et pourtant, on n'est pas en next-gen là, hein.
on est sur un format différent.
Avec Animal Crossing,
c'est Animal Crossing, le jeu le plus vendu en France.
Qui sort au début du confinement, quoi.
C'est fantastique, d'ailleurs c'est le jeu le plus vendu en France, et c'est la première fois depuis plusieurs années que c'est pas FIFA, le jeu le plus vendu en France.
Et sur le site du sel, les éditeurs, il y a le classement, et c'est vrai que si on va se balader tout au long de l'année, Animal Crossing revient tout le temps en première position.
C'est la force de Nintendo, c'est que les consoles, même si elles sont vieilles, se vendent, les jeux, même s'ils sont vieux, se vendent. Il n'y a pas de baisse, c'est pas cyclique comme chez Sony ou chez Microsoft. Donc au total, ils sont presque à 80 millions de Switch vendus en 4 ans. C'est monstrueux. Ils en ont vendu 12 millions à Noël. Là, il y a 12 millions de personnes qui ont acheté une Switch à Noël, donc c'est plus que la PS4, que la PS5 réunie. Enfin, autant vous dire que c'est complètement délirant à quel point Nintendo...
Et là, à mon avis, Nintendo doit commencer à gagner de l'argent sur la vente des consoles. Là.
Nintendo, ça va bien.
Sur la Lite aussi.
Au total, ils ont vendu 532,34 millions de jeux, hein, Nintendo, sur 4 ans, sur la Switch. Enfin, c'est vraiment monstrueux. En plus, grâce à la pandémie, là encore... avant Nintendo, c'était quand même une grande majorité de personnes qui achetaient les jeux en physique, parce que c'est des cadeaux, c'est pas exactement le même public. Mais là, aujourd'hui, on a 40% de jeux en démat, contre 28% l'année dernière. Donc du coup, sur le démat, on touche 100% de marge.
Bien sûr. Il n'y a pas, y a pas la marque distributeur, il n'y a pas le transport,
tout
etc.
À fait. Donc, pour
eux, surtout que la console s'y prête vachement.
Et voilà.
Parce qu'elle est connectée en Wi-Fi, on se balade avec, on télécharge, finalement, on se comporte presque comme avec un smartphone.
Exactement.
Et la différence... Alors évidemment, Sony est impliqué dans la production de certains jeux, mais sauf que les gros succès de PlayStation 5 et de, et de la Xbox, c'est moins Sony et Xbox, ça va être des autres éditeurs. Là, Nintendo, ils prennent tout.
C'est eux qui prennent
tout. Ils prennent tout, c'est incroyable. Et c'est absolument monumental. Et là où ils sont forts, c'est voilà, de ne pas jouer sur ces cycles techniques. Parce que quand on voit les designs des jeux, même si d'ailleurs les jeux, évidemment, Zelda, c'était magnifique, mais ils arrivent à se détacher complètement de la partie techno et puissance pour avoir des revenus totalement linéaires et voilà, monter en puissance et être totalement détaché de qui a le meilleur processeur, qui a la meilleure carte graphique.
Ça va être intéressant de voir si dans les prochains mois, années, on va avoir une nouvelle console Nintendo.
Il y a des rumeurs, ça pourrait être pour cette année, d'ailleurs, on en parle depuis quelques... On savait, depuis 2-3 ans, on annonce qu'il va y avoir une Switch Lite, elle est arrivée, et une Switch Pro. A priori, cette Switch Pro, elle va avoir un nom qui est très Nintendo, ça serait Super Switch, ce qui est logique, on avait la Super Nintendo,
évidemment.
On a eu plein de choses, donc ça serait logique d'avoir une Super Switch, et on parlerait de gaming en 4K, de ce genre de choses, mais on serait quand même loin, en termes de proportion, de ce que proposent Microsoft et Sony. Mais bon, Nintendo a bien compris une chose, parler aux gens avec... de la 4K, de la 8K, de l'HDMI 2.1.
C'est pas ce
ça
qui fait rêver les joueurs.
Ça parle uniquement à une petite communauté de joueurs, mais ceux qui achètent la console pour jouer à FIFA et à Call of Duty, c'est pas important pour eux.
Allez, on va parler d'Apple cette mise à jour qui va permettre en fait de déverrouiller son iPhone, Raphaël, tout en gardant le masque. Alors, il y a deux choses intéressantes. C'est qu'il y a des rumeurs de plus en plus persistantes qui nous promettent un nouvel iPhone l'année prochaine. Enfin, non, même pas l'année prochaine, là, en septembre prochain, avec le retour du Touch ID. En plus du Face ID, ça serait quand même une bonne nouvelle.
C'est vrai que c'est l'avantage en ce moment des smartphones Android, c'est qu'ils ont quasiment tous maintenant, enfin, les milieux haut de gamme, ils ont tous le capteur d'empreinte sous l'écran.
Ouais.
Et
c'est bien pratique.
C'est très très pratique.
Quand on a le masque.
Alors, notamment pour déverrouiller. Et oui, quand on a le masque, pour déverrouiller. Et donc, Apple s'est dit, on va quand même aider nos clients et nos utilisateurs à déverrouiller leur iPhone. Alors, l'année dernière, en urgence, ils avaient fait une petite mise à jour pour enlever le délai de, je crois que c'était 10 secondes. Quand Face ID échouait, il fallait un délai de quelques secondes pour pouvoir entrer le code, ce qui était un peu long. Donc là, ils ont dit, dès que le Face ID détecte qu'il y a un masque, il propose d'entrer le code. Et là, donc, ils vont permettre de déverrouiller directement, juste en analysant le haut du visage. Évidemment, ce n'est pas aussi sécurisé que Face ID classique, on va dire. Donc, pour déverrouiller, il va falloir avoir une Apple Watch au poignet qui sera, elle aussi, déverrouillée pour, entre guillemets, apporter une sécurité supplémentaire. Comme elle est connectée à l'iPhone, il reconnaîtra. Bon, on a reconnu la moitié du visage, il a une Apple Watch. Ça peut passer. Par contre, on ne pourra pas payer avec parce que ce n'est pas suffisamment sécurisé.
Voilà, c'est ça.
Mais enfin, ils se remettent au niveau d'Android parce que finalement, Android, on ne peut pas payer avec non plus puisque de toute façon, il y a moins de solutions, c'est moins répandu, on va dire. Mais du coup, c'est pour ça que Apple aurait quand même vraiment intérêt à remettre du Touch ID en septembre parce que les habitudes sont vraiment en train de changer. Et Touch ID, pour des millions de clients qui ont un masque, c'est très important. Et puis, et ça, on en a régulièrement discuté avec Nico, le capteur d'empreinte digitale sous l'écran est une technologie mature. C'est arrivé il y a 3 ans.
Ouais. Au début, c'était
ans,
un peu...
2 ans sur Android ou 3 ans, je ne sais
c'est
plus.
Laborieux,
mais c'était un peu laborieux, un peu capricieux. Là, la techno est vraiment mature. Et comme toujours chez Apple, c'est jamais les premiers.
Ouais.
Mais quand ils le mettent dans l'iPhone,
ça marche.
C'est que ça marche, voilà. Ouais, et donc, c'est le moment idéal. Donc, franchement, on a du mal à imaginer qu'ils ne le fassent pas en septembre.
Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on se rend compte que Apple n'est pas arrivé à déverrouiller, à faire déverrouiller l'iPhone avec le Face ID, même avec le masque. Parce que
finalement, ils peuvent le faire.
Ils peuvent
d'ailleurs, ils le font.
On ne serait pas au niveau de sécurité peut-être exigé par Apple, c'est ça.
Il y a aussi ça. C'est tout. Après, c'est malin, comme bidouille. Ils vendent l'Apple Watch. tout est extrêmement bien implémenté.
Moi, je trouve que c'est plutôt un gadget, cette histoire de déverrouillage avec l'Apple Watch.
Je me suis permis d'installer les bêtas sur mon téléphone, sur la montre, pour jouer. Et on voit vraiment que c'est un gadget. Je ne suis même pas sûr, pour être honnête, qu'ils utilisent Face ID. En réalité, s'ils détectent qu'il y a le masque, peu importe que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ça se déverrouille si vous avez autorisé cette fonction. Donc, c'est vraiment juste un jouet, ça permet de aux gens qui sont dans l'écosystème Apple d'avoir un avantage. Et c'est pratique, mais bon, c'est pas non plus une révolution. Et vivement le retour du capteur d'empreinte.
J'allais dire, on peut montrer ça à des potes au restaurant, mais bon, c'était pas une bonne phrase. Ça marche pas. On va rester dans l'univers d'Apple, mais cette fois-ci avec Facebook. Et là, franchement, ça se corse et on voit que la tension monte entre ces deux géants. Parce que, Apple est en train de verrouiller en fait toutes les conditions d'utilisation de Facebook sur l'iPhone. Hein, et aujourd'hui, quand on a Facebook, on l'a via une appli qu'on a téléchargée sur l'App Store. Et visiblement, ça ne paie pas à Facebook qui commence sur ce sujet, qui est un sujet qui, à mon avis, peut prendre de l'ampleur dans les semaines qui viennent.
Je peux rapidement faire une introduction là-dessus. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'Apple avait annoncé avec iOS 14 qu'il allait avoir un nouveau système de permission. Vous savez, quand vous ouvrez une application pour la première fois, on vous dit ce que vous voulez qu'elle vous localise, est-ce que vous voulez accéder à l'appareil photo. Tout ça, c'est des droits que l'utilisateur possède. Il va y avoir un nouveau droit qui va permettre, qui est assez fou, hein, et c'est génial d'avoir ça sur un smartphone, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour que cette application continue de vous traquer dans d'autres applications ou dans d'autres sites. Ça, c'est le modèle économique de Facebook, de Google et de plein d'autres applications.
Facebook, Instagram, enfin WhatsApp un peu moins, mais bon, bientôt.
Bientôt, c'est vrai.
Voilà.
Clairement, et tout ça, ça a fait polémique. Du coup, Apple a reculé. Ils ont dit, ça va arriver, mais petit à petit, on laisse le temps aux développeurs. Et Facebook avait déjà prévenu, il y a quelques semaines, que si Apple met en place un tel système, il y a plein d'annonceurs et d'entreprises qui vont mourir et que Tim Cook aura le sang de toutes les entreprises sur les mains. Il a pris une publicité dans les journaux en grande page pour dire que Apple est sur le point de tuer le système de la publicité, que Facebook allait devoir se retirer du marché.
On est absolument persuadé que Facebook veut vraiment défendre les petites entreprises.
Hein. Oui, bien sûr, ça
se voit tout de suite.
Ils sont totalement sincères là-dessus.
Le problème, c'est que je pense qu'ils ont surtout donné envie à Tim Cook, qui utilise beaucoup ça à la fois d'un point de vue marketing, mais je pense que c'est vraiment une cause qui tient Apple, parce que c'est comme ça que le modèle s'est construit chez eux, de devenir le grand défenseur de cette vie privée. Et donc, du coup, ils en profitent pour vraiment tacler Mark Zuckerberg et pour dire que voilà, avec l'iPhone, c'est fini. Ils vont mettre fin à ces pratiques de tracking. Et on peut peut-être, Raphaël, je pense que est d'accord avec moi, on est sur les tout débuts d'une grosse guerre qui va se dérouler dans la Silicon Valley.
Ça va être une guerre de com. Alors moi, j'étais assez étonné de la tonalité d'Apple. C'est très étonnant.
Oui.
Ça fait quelques semaines qu'Apple tape directement nommément sur Facebook. Alors il y a ce qu'a dit Tim Cook.
Alors c'est pas dans les habitudes d'Apple. Hein.
Ah non, moi j'étais très étonné quand j'ai vu leur communiqué de presse avant la prise de parole de Tim Cook. Déjà en fin d'année, ils tapaient sur Apple. Et là, je pense que Tim Cook, il a parlé de boîte qui est méprisable, en gros.
Oui, bien sûr.
C'est quand même pas anodin. Donc là, la guerre est franchement ouverte. Mais oui, Apple n'a aucun intérêt à reculer là-dessus. Apple ne vend pas, ça ne lui rapporte rien, la vie privée. Apple a un modèle économique très simple. Il vend des produits, il vend des services. C'est facturé, il n'y a pas de pub. Donc, ils n'ont aucun intérêt à ne pas protéger la vie privée. Et ça en fait un argument marketing hyper intéressant. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Facebook a quand même changé de position.
Oui.
Parce que cet été, ils ont dit d'accord, on laisse tomber, on ne demandera plus l'autorisation, on ne suivra plus personne. Et ça va coûter cher. Là, finalement, ils tentent la notification pour demander quand même à l'utilisateur l'autorisation de les suivre. Donc, ils ne sont plus du tout dans la même position. Et je pense qu'ils ont peut-être calculé le montant.
Oui, il y a quelqu'un qui a dû sortir cette calculatrice.
Au fait, Marc, ça va nous coûter cher. On va demander quand même l'autorisation. Mais, sincèrement, quel utilisateur a intérêt à dire oui?
Personne
n'a intérêt.
Évidemment qu'il faut dire non.
On n'a aucun intérêt. C'est pour nous suivre.
Et la notification d'Apple est faite de manière à vous faire comprendre que ces pratiques ne sont pas bonnes. On ne vous décrit pas le truc. Facebook va tenter de mettre un message avant le pop-up pour lisser le truc et expliquer pourquoi il
y a. Je ne sais pas si vous avez, enfin, moi, de temps en temps, je vais sur Facebook et il y a des petits messages en disant attention, les conditions d'Apple vont changer, etc.
Ça, je l'ai pas vu.
Vous allez perdre en expérience utilisateur de Facebook, patati patata, etc.
Ils disent vous aurez toujours de la publicité, mais elle ne sera pas adaptée. Okay, c'est vrai, il y a eu un piratage encore de Facebook, il y a des millions de numéros de téléphone qui sont dans la nature, donc rien que pour ça, je pense qu'il faut dire non. Et puis Facebook, non mais aujourd'hui, qui fait confiance à Facebook? Une once de confiance? Personne n'a plus confiance en Facebook, on voit bien ce qui se passe avec WhatsApp, donc évidemment que tout le monde aura intérêt à dire non.
On va terminer avec une note un petit peu plus sympathique, même si je sais que au sein de des rédactions de Zero Net et de BFM Tech, on n'est pas tous forcément d'accord. C'est au sujet de l'Apple Car. L'Apple Car serait dans les tuyaux. Alors ça fait des années qu'on en parle, et là visiblement Hyundai et Apple seraient sur le point de se marier en quelque sorte pour fabriquer une Apple Car. Voilà. Ouais. Et alors, c'est CNBC qui l'a encore confirmé. Il y a eu pas mal de confirmations. Il y a eu Bloomberg qui l'a annoncé. Min-Chul Kuo, on a parlé aussi. Et là, c'est CNBC. Ça commence vraiment à sentir l'Apple Car,
ça
non
ça chauffe de nouveau. Mais je précise le de nouveau qui est important parce que ça chauffait déjà il y a 5 ou 6 ans avant de complètement disparaître. Mais
c'est un vieux serpent de mer,
cette
voiture.
Ça fait à peu près 10 ans qu'on dit qu'Apple veut faire une voiture. C'est un projet qui s'appelle le projet Titan. A priori, ils avaient des ambitions monstrueuses quand Tim Cook est arrivé. C'était on veut une voiture d'ici 2-3 ans. Le truc, c'est complètement éclaté. Ils ont recruté plein de gens de chez Tesla avant de licencier tous ces gens de chez Tesla parce que finalement, ils n'en avaient pas besoin. Ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Tim Cook a dit lui-même dans une interview que Apple fabriquait un système de conduite autonome mais qu'il n'avait pas vocation à fabriquer lui-même sa propre voiture. Ce qui est rare. Hein. Tim Cook qui raconte justement le projet Apple, c'est la preuve à quel point ce truc est important pour eux. On n'entendait plus parler du projet Titan. Et depuis quelques mois, on ne sait pas pourquoi, c'est complètement revenu. Il y a eu un changement de dirigeant. Bob Mansfield, qui était sorti de sa retraite, qui est un ancien vétéran d'Apple, est reparti à la retraite.
Pour un projet secret, visiblement, et ça serait ça. Hein.
Alors, non, ça c'est une autre personne.
Non, Bob
Mansfield, il était pendant très longtemps chez Apple, il était parti à la retraite et il l'avait fait revenir pour gérer le projet Titan. Puis après, il a été remplacé il y a quelques mois par le chef de l'intelligence artificielle et de Siri. Et après, c'est Dan Riccio, qui est le responsable matériel d'Apple, qui depuis quelques semaines, s'occupe justement d'un projet secret.
Ouais, c'est ça.
On imagine que c'est justement ce fameux produit Apple Car. Et depuis donc quelques temps, on est repassé d'un système de conduite autonome à un vrai véhicule signé Apple. Mais on ne sait pas trop. Certains disent que ça sera que autonome. Certains disent que les gens pourront le conduire. On parle de 2024, de 2025. Mais il y a vraiment plein de mystères autour de ce produit.
Raphaël, tu es assez dubitatif concernant cette association.
Il y a deux choses chez Apple. Il y a deux projets que je ne comprends pas. C'est ça et l'AirTag. Non, mais c'est vrai. C'est
et le casque de VR.
Ouais, même le casque de VR qui sent un peu bizarre. Quoi.
C'est des trucs. Non, mais l'AirTag, tous les ans, on nous dit ah, Apple va sortir l'AirTag. Mais on s'en fout. C'est quoi ce produit? Non, mais sérieusement.
Non,
c'est vrai. Il y a même Samsung qui en a sorti.
Non, mais c'est ça. Tout le monde s'en fout d'ailleurs. Et même Samsung a vu tellement de rumeurs que même l'ont sorti.
Mais oui.
Non mais je ne comprends pas. Et non mais sur la voiture c'est pas le même projet. Mais je comprends pas ce que va aller faire Apple. Ils ont même pas. Tim Cook n'a même pas voulu recevoir Elon Musk pour acheter Tesla. Il y a quoi? Il y a deux ans?
Trois
ans?
Oui, non, c'est un peu deux ans. Voilà, ça
donc il ne l'a même pas reçu. Non mais qu'est-ce qu'Apple va aller faire dans la voiture? J'ai du mal à y comprendre. Et en même temps, c'est des sources sérieuses. Alors. Je pense que Apple se dit, s'il y a une voiture autonome, c'est qu'il y a du temps libre pour se divertir et on va être sur le coup, évidemment. Mais pas pour... Enfin, moi, Apple fabrique une voiture, qu'est-ce qu'ils vont aller s'emmerder, entre guillemets? Ils font 40% de marge sur tous leurs produits. Qu'est-ce qu'ils vont aller s'emmerder avec une voiture qu'ils ne connaissent pas, avec des lignes de production qui coûtent des fortunes? Moi, j'ai du mal à y croire. Alors, je serai le premier à dire, je me suis complètement planté, mais je ne comprends pas du tout l'hypothèse d'un véhicule Apple.
Surtout que ça ne serait même pas un véhicule personnel, hein, ça serait, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai pu lire à droite à gauche, des véhicules qui desserviraient le dernier kilomètre, en fait, qui pourraient nous amener au restaurant
C'est une des pistes évoquées. Après, on parle aussi d'une voiture personnelle.
D'une voiture personnelle,
c'est vraiment flou. Moi, je ne les vois pas aller 100% sur une voiture autonome, mais je suis moins sceptique que Raphaël. Je pense vraiment qu'il y a un projet de véhicule autonome chez Apple. Je vois pas pourquoi ils testeraient. On voit des photos souvent autour de la Silicon Valley de voitures avec 40 000 capteurs sur le toit. Je pense qu'ils testent des choses, qu'ils ont des ambitions. Maintenant, de là à dire que leur décision est déjà prise avec une année de commercialisation et un prix, je pense qu'on en est très loin.
Ça avance avec Hyundai. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un partenaire quand même.
Bah, il faut bien quelqu'un pour produire quelque chose à un moment, mais ils vont peut-être produire juste quelques
exemples
de prototypes.
Peut-être une voiturette pour se balader sur le campus, hein, comme les boîtes à pizza chez Apple.
En vrai, c'est possible, mais il y a peut-être...
Ils ont les moyens.
Ce serait pas très flatteur pour Hyundai,
sûr. Oui, mais en même temps, c'est qui a Hyundai? Bon, c'est pas non plus...
C'est
une marque, évidemment.
Il faut savoir que c'est des marques qui sont très performantes dans le domaine de l'électrique, notamment Hyundai qui a... Les Coréens sont excellents dans ce domaine.
Si je ne me trompe pas, il y a 4 ou 5 ans, on disait qu'Apple avait signé un partenariat avec Volkswagen, et ça s'est jamais fait. Qu'est-ce qui va se passer? Bonne question.
Écoutez, on annonce 2024. Hein, on verra bien. On aura l'occasion de reparler ici avec vous. Merci beaucoup Nicolas Lelouch, la rédaction de Zeronet.com et Raphaël qu'on peut lire sur BFM Tech, Raphaël Gravy. Merci à tous les deux.
Avec plaisir François.
Comment se porte le marché du PC? Comment a-t-il évolué ces derniers mois? On va en parler avec mon invité. Je vais recevoir le directeur marketing et communication d'Acer France dans un instant. Acer qui est le 4e constructeur de PC au monde. A tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Et oui, nous sommes toujours là, de quoi je me mêle, vous savez, en deux parties, hein, le club de la presse IT, puis pour ce second chapitre, on s'intéresse en fait au marché de la tech, et cette semaine, on va jeter un œil sur le marché du PC. Le PC portable qui renaît de ses cendres, hein, c'est vrai que c'était un petit peu le vilain petit canard ces dernières années, et bien voilà, la pandémie est arrivée, le télétravail aussi, et nous sommes tous très nombreux à utiliser au quotidien aujourd'hui un PC, un Mac, qu'il soit portable d'ailleurs ou de bureau. On va en parler avec Acer et Karim Ouayoun qui est mon invité. Bonjour Karim.
Bonjour François.
Directeur marketing et communication chez Acer. Acer, constructeur de PC taïwanais, quatrième constructeur au monde. Hein, voilà, donc oui. Vous faites partie vraiment des constructeurs importants. Petite carte d'identité rapide d'Acer. Hein, ça fait un moment que vous êtes sur le marché. Hein.
Alors oui, on est une entreprise qui a à peu près 40 ans d'existence et nous sommes basés en France depuis à peu près une vingtaine d'années.
D'accord.
Et aujourd'hui, l'entreprise s'est transformée puisqu'à la base, on fabriquait des ordinateurs pour les autres. Puis on s'est dit, un jour, pourquoi pas les fabriquer nous-mêmes ? Et c'est comme ça que l'histoire a commencé, en fabriquant des ordinateurs. Puis ensuite, ça s'est diversifié sur les écrans, les périphériques, les souris, claviers, etc.
Aujourd'hui, que fait Acer ? Donc du PC, bien sûr, des périphériques ?
Souris, claviers, tapis de souris. On a aussi des gammes gaming, des gammes créateurs, donc en fonction des utilisateurs, des PC de bureau, des écrans, des moniteurs, des vidéoprojecteurs. Une gamme de produits très large. Et on distribue pas tout en France, puisqu'il y a aussi d'autres filiales et d'autres produits qui sont distribués en Asie.
Oui, des téléphones, des tablettes, des choses comme
ça
aussi.
Des produits aussi pour les maisons intelligentes, ou aussi pour les animaux domestiques. Donc voilà, pas mal de produits. Là, on a annoncé un purificateur d'air aussi.
D'accord.
Donc, voilà, pas mal de produits qui sont distribués en Asie et qui arriveront peut-être en France aussi plus tard.
Oui, c'est vrai que les purificateurs d'air, par exemple, on cartonne en Asie. On en parlait la semaine dernière, justement, avec Eric Novel, le patron de Panasonic. Alors, on va faire un point, justement, sur les tendances de cette année 2021. Est-ce que il y a de grosses nouveautés qui sont attendues ? Et je crois que du côté du gaming, il y a une petite révolution qui est en train de se tramer. Mais un mot quand même sur ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui continue d'arriver d'ailleurs, hein, cette pandémie, Karim. On voit que le marché du PC a explosé. Est-ce que concrètement, vous l'avez vu, une explosion des ventes de vos machines ?
Alors, ça a été assez impressionnant, puisque cette pandémie, le fait d'être en télétravail, le fait d'être en études à distance, ça a fait exploser la demande. Et on est revenu aujourd'hui à la même situation sur le marché qu'en 2009, en termes de volume, puisque l'année dernière, il y a eu à peu près 300 millions d'unités d'ordinateurs qui ont été distribuées dans le monde. Mm-hmm. C'est assez impressionnant. Et surtout, ça a généré des problèmes aussi de pénurie de composants, d'ordinateurs. On est toujours dans une phase de pénurie aujourd'hui. C'est assez compliqué de répondre favorablement à la demande, mais on l'a vu véritablement exploser.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes tendu sur certains composants d'ordinateurs.
Oui.
Et ça implique quoi ? Ça veut dire que vous n'arrivez pas à livrer, par exemple, certains modèles ?
Exactement.
Ou alors vous êtes vraiment en flux tendu, vraiment ?
Alors, aujourd'hui, on est en flux tendu et heureusement, l'année dernière, on a réussi à être suffisamment agile pour répondre à un maximum de demandes possibles. Mais malgré tout, un ordinateur, ça reste très complexe, puisqu'il y a l'écran, il y a les différents processeurs, il y a les phases d'alimentation, enfin, il y a énormément de composants dans un seul ordinateur. Et au final, il y a des constructeurs d'écrans qui eux-mêmes ont du mal à livrer, il y a d'autres constructeurs de puces qui ont du mal à livrer. Et au final, nous, on se retrouve en bout de chaîne à avoir des usines bloquées parce qu'il va manquer le dernier composant.
Et oui, vous avez une multitude de fournisseurs, il suffit qu'il manque une pièce
pour que la machine s'arrête.
Voilà, c'est ça, c'est embêtant.
Et après ça, il fallait aussi être capable de livrer les machines en Europe. Et pareil, très compliqué, puisque la demande ayant explosé, eh bien, c'était un peu la course à trouver soit les containers ou autres. Nous, on a fait le choix pour nous engager, en tout cas à livrer dans les temps, à passer par avion plutôt que par bateau, ce qui se fait généralement, pour pouvoir être réactif et permettre à tous ceux qui ont besoin de travailler dans l'urgence ou d'étudier dans l'urgence de recevoir leurs ordinateurs. Mais malgré tout, on n'a pas pu absorber toute la demande du marché, je dis européen, mais notamment français.
Alors, est-ce que cette demande qui a été plus forte que l'offre, finalement, a fait monter les prix, tiens ? Est-ce que les prix des PC ont augmenté ces derniers mois ?
Pas vraiment. En tout cas, nous, on a fait le parti pris d'absorber nous-mêmes le coût, les évolutions de coût qu'il a pu avoir, puisque oui, sur les composants, certains fournisseurs ont augmenté leur prix.
Bien sûr, pénurie, l'offre et la demande, forcément. Voilà.
Mais nous, on a fait le choix de prendre en charge ce coût. Puisque le volume ayant explosé, on se dit que le volume va venir rattraper le fait que l'on prenne sur nous ces différents coûts qui peuvent être amenés à évoluer. Mais ce n'est pas terminé, puisque la RAM continue à augmenter, les prix des écrans continuent à augmenter. Donc il y a peut-être un moment où fatalement les prix vont augmenter, mais aujourd'hui, ça a été très très contenu.
Combien coûte le PC aujourd'hui, le plus plébiscité par les Français? C'est quoi la tranche de prix?
La tranche de prix, elle est aux alentours de 600-700 euros.
D'accord.
C'est, on va dire, sur les modèles les plus vendus.
Et à ce prix-là, on peut avoir déjà quelque chose de correct?
Oui, oui, vous avez du Core i3, du Core i5, avec une machine qui est suffisamment puissante pour travailler correctement.
D'accord.
Et puis après, vous avez d'autres solutions qui sont un peu moins chères, certes, notamment dans les gammes Chrome. Mm-hmm. Vous avez des modèles à 400-500 euros. Et vous pouvez aussi monter jusqu'à 700-800 euros, bien sûr, pour avoir des modèles avec une meilleure qualité d'écran, du tactile, etc. Mais vous pouvez trouver des gammes de produits à 400-500 euros qui fonctionnent très bien, très agréables à utiliser avec toutes les dernières innovations technologiques.
Et on pense notamment aux étudiants hein, qui, surtout en ce moment, pour certains, n'ont pas forcément des budgets monstrueux.
Bien sûr.
Aujourd'hui, un PC est vraiment indispensable. Hein.
Oui.
Est-ce que par exemple vous vous dites tiens on va créer des gammes de PC pour les étudiants spécifiquement avec peut-être d'excellents rapports qualité-prix, machines qui sont plutôt tournées vers leurs usages?
C'est ça. En fait on travaille beaucoup avec Microsoft et Google pour avoir un cahier des charges précis pour les besoins d'étudiants. Si on prend les solutions Windows ou type Teams notamment qui peuvent aussi être utilisées par les étudiants, le travail collaboratif ou Google avec Gmail ou Google Meet, qui sont des outils qui permettent de travailler à plusieurs. On a des fiches techniques à remplir dans lesquelles il faut avoir la machine qui va bien correspondre à ses spécificités pour les étudiants. Et on a des machines, je parlais du Chromebook, à peu près aux alentours de 300-400 euros, qui sont vraiment parfaites pour les étudiants. Et on a les mêmes versions en Windows, pour ceux qui préfèrent être sur un écosystème Windows, aux alentours de ces prix-là.
Oui, parce qu'on peut faire du Teams sous Chrome, en fait,
bien sûr.
Chromebook, oui, puisque de toute façon, on a le navigateur Chrome et qu'on peut lancer tout ce qu'on veut.
Exactement, on peut aller dans la fenêtre et l'utiliser. Ouais.
On va parler de Chromebook dans un instant, parce que c'est vrai que c'est un marché assez étonnant, qui cartonne aux US, qui a du mal à décoller en France, même si vous nous dites que visiblement, ça commence à frémir. Mais cette pandémie, est-ce qu'elle a changé on va dire, ou l'ergonomie ou certaines spécifications techniques de vos machines, Karim, parce qu'on voit que on se sert beaucoup plus de la webcam, qui, sur certains PC, n'était pas terrible. On se sert beaucoup du son, on se sert beaucoup de la captation de la voix avec des micros. Est-ce que ça vous a fait réfléchir sur certaines modifications de vos machines?
Alors, il y a deux niveaux. Il y a des produits qui vont recevoir des nouveautés, notamment les webcams qui ont été retravaillées, justement parce qu'on se rend compte que le télétravail et autres nécessitent justement de meilleure qualité. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive.
Alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous changez la webcam, tout simplement? Vous montez en définition?
Oui, aujourd'hui, on a des webcams qui sont déjà Full HD. Mais aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'avoir de nouveaux modèles qui vont être un petit peu plus lumineux, aussi d'avoir un petit peu d'IA, d'intelligence artificielle, qui vont aussi retravailler l'image.
En fait, on se rapproche du smartphone, quoi.
Exactement.
De la caméra selfie du smartphone.
Exactement. Même si aujourd'hui, elles sont déjà en Full HD, hein, donc la qualité est correcte. Mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Ensuite, sur toute la partie technique des machines, la partie audio notamment, en fait, ça fait des années qu'on travaille dessus. On a déjà des drivers type DTS qui vont travailler la clarté du son. Donc, sur la partie audio, il n'y a pas vraiment de problème aujourd'hui. Et toute la technicité des produits depuis des années fait qu'aujourd'hui, ça va très bien.
Et les micros?
Les micros aussi, c'est pareil. Là où on va avoir des grosses nouveautés, sur le Wi-Fi, notamment. Il y a une nouvelle génération de Wi-Fi qui arrive, le Wi-Fi 6. Donc là, on était sur la génération AX, qui est déjà une belle évolution. Puisqu'on peut avoir des transferts de 600 mégas, enfin quasiment du filaire. Le filaire est à peu près 1 giga. Là, on a 600 mégabits de transfert en Wi-Fi AX, donc c'est déjà énorme. Et on va avoir la nouvelle génération qui arrive. Et c'est notamment dû au travail qui a été fait aussi avec Intel sur leur processeur capable de gérer ce taux de transfert. Donc, toutes ces innovations arrivent, mais en fait, elles ont été travaillées depuis quelques années.
Bien sûr.
Elles arrivent à point nommé.
À part peut-être les webcams que vous avez... améliorer pas en catastrophe, mais en vous disant, ok, là, il y a un truc à faire, il faut le faire.
Voilà. Hein.
Tout le reste était
déjà prévu. Et on peut parler notamment des surfaces antimicrobiennes qu'on a développées pour nos ordinateurs. Ça veut dire qu'on développe depuis quelques temps, et les premiers modèles qui en sont équipés sont arrivés sur le marché en 2020. Alors, ce n'est pas une solution miracle anti-Covid. Hein.
Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que c'est un revêtement qui tue
les
microbes?
C'est un traitement sur le LCD, mais aussi sur le châssis, qui en fait permet d'éviter la prolifération.
Pardon, c'est pas facile, hein, ça.
La prolifération des germes sur les différents éléments du PC. Donc c'est important, notamment pour les étudiants, pour les enfants à l'école, parce qu'on a des gammes de produits pour les écoles.
Oui.
Très souvent, il y a un ordinateur pour 5 élèves, 6 élèves en moyenne, et on sait qu'ils vont tous mettre leurs doigts
sur le, ça se voit d'ailleurs.
Sur l'écran.
Et on ne voit peut-être pas les germes, les microbes, mais on voit les traces. Hein.
Donc c'était important pour nous de proposer des ordinateurs qui ne soient pas vecteurs de germes ou autres. Et finalement, on a aussi déployé sur le châssis, sur tout le PC, et les premiers modèles sont arrivés là pendant l'année 2020. Donc ça faisait aussi écho à ce que l'on subit, et aussi aux nouvelles façons d'utiliser son ordinateur, puisque beaucoup d'étudiants, de salariés qui travaillent chez eux, n'ont pas forcément une pièce dédiée ou un bureau dédié. On travaille sur la table du salon, dans la table de la cuisine, on peut être amené à manger sur le pouce et continuer à travailler. Donc voilà, disons que on sait qu'un clavier, généralement, c'est assez sale.
Oui, c'est vrai. C'est un nid à microbes.
Exactement, on ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est plus sale qu'un smartphone. L'idée, voilà, c'est de limiter en tout cas la prolifération de germes.
Mais ce n'est pas miraculeux, hein. On est en pleine période Covid. Ce n'est pas pour autant que ça va tuer le virus.
Non, pas du tout. Non.
C'est-à-dire que j'ai du virus sur les doigts, par exemple, je touche votre PC qui est avec ce revêtement. Oui. Qu'est-ce qui se passe?
Il faudra quand même le désinfecter. Mais ça va éviter en tout cas la prolifération de germes sur l'ordinateur.
On peut peut-être aller plus loin d'ailleurs dans ce traitement. Peut-être qu'on peut l'améliorer, non, dans les mois ou les années qui viennent.
Les équipes d'ingénieurs travaillent dessus.
D'accord.
Là, c'est vraiment la grosse nouveauté qu'on a sortie sur les machines, mais ça va être amené à évoluer. Ouais.
On a tous vécu des réunions Teams, Karim, où on n'entend que le clavier de notre interlocuteur parce qu'il prend des notes, le pauvre, ce qui est normal, hein, et ça fait un bruit fou. Est-ce que ça aussi ça vous fait réfléchir en disant tiens, est-ce qu'on peut essayer de rendre les claviers plus silencieux, trouver un système pour qu'il y ait moins de bruit?
Alors ça, ce problème vient souvent, je vais pas dire d'une mauvaise conception, mais en tout cas d'une résonance du micro.
D'accord.
Qui prend les bruits du PC. Souvent c'est pallié de deux façons. La première, c'est qu'on n'a pas un seul micro mais plusieurs. Et en fait, on va avoir par un driver, un logiciel qui va écouter les bruits ambiants et la voix et supprimer tous les bruits qui ne sont pas la voix.
Qui ne sont pas beaucoup,
qui ne sont pas celles de... Voilà.
D'accord.
Et c'est la manière dont on atténue, voire effacer, mais c'est très rare d'effacer les bruits, et ça empêche ce problème. Autrement, c'est d'avoir un ordi très bien fini, de qualité, et là, on a moins ces problèmes-là. Après, ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup utilisent aussi des casques, micro-casque avec des petites perches.
Là, ça règle le problème, bien sûr. Voilà. Évidemment. Ouais, ouais. Ça, c'est l'idéal, hein, d'avoir un micro-casque.
Exactement.
Hein, forcément. Alors, on va parler des nouveautés parce que le CES 2021 s'est terminé. Alors, un CES un peu particulier, on en a beaucoup parlé ici dans De quoi je me mail. Mais vous en avez profité pour annoncer pas mal de choses. Et tout comme d'ailleurs de nouveaux constructeurs, une nouvelle gamme de PC qui est à la fois un PC pour travailler, mais aussi pour jouer. Ouais. Tout en conservant en fait une finesse et un poids d'un notebook normal, quoi.
Ouais, bien sûr. En fait, ça a été notamment grâce à Intel et à une collaboration avec eux, puisqu'ils ont développé les nouveaux processeurs H35, qui en gros permettent d'avoir une consommation énergétique qui est beaucoup moins élevée. Et donc beaucoup moins de chauffe, et ça permet de réduire l'épaisseur du PC. Donc là, on est sur
parce qu'on a moins ou une batterie plus fine, c'est ça?
Batterie plus fine aussi, donc consomme beaucoup moins.
D'accord.
Là, par exemple, on a annoncé le Triton 300 SE qui en est équipé de ce processeur 11e génération. Et ce que ça permet, c'est d'avoir un PC qui fait moins de 18 mm. Donc, le nôtre fait 17,9 mm, 1 mm en moins.
Ah oui, 0,1 mm.
C'est pour la frime.
Mais... C'est ça, c'est pour la frime.
Mais voilà, on est sur un ordi qui est très fin, léger, puisqu'il fait 1,7 kg. Mais qui néanmoins est une machine gaming au final. On a changé le châssis, il n'y a pas de LED, c'est pas tapant. Si on ne dit pas que c'est un ordinateur gaming, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. L'idée, c'est qu'il soit utilisé par des étudiants, mais aussi des joueurs qui sont actifs.
Voilà. Il y a de plus en plus. Et qui n'ont pas envie de crier sur les toits avec leur machine, un truc qui clignote dans tous les sens, que c'est.
Moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Je ne me vois pas arriver dans une réunion avec un ordi flashy, plein de couleurs, plein de LED. Donc, un ordinateur un peu discret que je peux utiliser ensuite à titre personnel pour jouer, c'est l'idéal. Et c'est ce que permet cette nouvelle plateforme, puisque du coup, les ordinateurs sont beaucoup plus fins.
D'accord, mais après, il y a la partie graphique aussi.
Oui.
Donc là, c'est qui s'en occupe?
Là, on est équipé de cartes graphiques Nvidia.
D'accord.
On sera en RTX 3060. qui sont les toutes nouvelles architectures qui ont été lancées par Nvidia avec toute la partie ray tracing.
Donc c'est la combinaison en fait d'Intel, de la miniaturisation des processeurs Intel, enfin du châssis Intel.
Oui.
Plus
partie
donc,
graphique
la partie
Nvidia.
Graphique Nvidia.
Ouais, avec les formats Max-Q qui permettent justement d'avoir aussi des ordinateurs plus fins.
D'accord.
Avec moins de chauffe.
Et on arrive à voir quel type de configuration dans cette épaisseur.
Ah là, on va être sur un Core i7, une 3060 avec jusqu'à 32Go de RAM, un SSD d'un Tera, voire 2 Tera. On est vraiment sur une très grosse machine. L'écran monte jusqu'à 144Hz en Full HD, c'est une dalle IPS. On a vraiment des spécificités de machine gaming, de grosses machines gaming, évidemment.
Mais alors, la question que je vous pose, c'est que ça sert à quoi alors d'avoir une gamme de PC gamer?
Une gamme
plus épaisse, plus lourde.
Alors,
malgré tout, on aura le NEC plus ultra sur ce type de machine. Alors, il y a des limitations avec ce nouveau châssis.
Il y a des limitations, évidemment, parce qu'on n'aura pas forcément la même capacité de calcul qu'une tour, par exemple, ou qu'un PC portable gaming avec un châssis beaucoup plus épais,
oui,
qui permet un meilleur refroidissement. Là, il y aura quand même une limite dans les fréquences qui va être atteinte. Mais néanmoins, on pourra quand même jouer à la majorité des jeux de manière très très fluide.
On ne peut pas jouer en 4K par exemple.
On ne jouera pas en 4K.
Sur mais en 1080, c'est jouable.
Largement.
D'accord.
Largement jouable. Par contre,
avec des jeux hyper gourmands de dernière génération.
Bien sûr, un Cyberpunk passera dessus sans problème.
Et ça, c'est top quand même.
Ah oui, non, l'expérience n'est pas dénaturée. Après, c'est vrai que sur une tour avec un plus gros processeur, un meilleur refroidissement, une carte graphique, une 3080, une 3090 par exemple, on pourra jouer en 4K avec plus d'effets, tous les éléments graphiques activés. Là, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas le but de ce PC. Ce PC, il a aussi pour but de pouvoir permettre une expérience gaming qui soit de qualité en mobilité. Et à ce moment-là, c'est idéal.
Ça va être un gros marché, à votre avis, ce type de machine, dans les mois qui viennent?
Oui. En fait, ce qui va se passer, c'est que...
Après, on va parler du prix, bien sûr, parce que, voilà.
Oui, en fait, on voit qu'il y a quand même un public joueur, gamer, je ne vais pas dire qui est vieillissant, mais en tout cas, qui avance dans l'âge, qui joue de temps en temps, et un public plus jeune qui arrive. Pour les plus jeunes, ils ne s'orienteront pas forcément ces machines-là, sauf si on est étudiant et qu'on veut un ordinateur un petit peu...
Oui, un seul ordi, transportable...
Qui fasse tout.
Voilà, avec là, lequel je puisse bosser, mais aussi jouer, en fait.
Parce que là, je n'en ai pas parlé, mais c'est un 14 pouces. Donc la taille quand même, est quand même vachement réduite. Alors, ensuite, rien n'empêche d'avoir un écran chez soi, de brancher l'écran et de jouer dessus avec ses périphériques, son clavier, sa souris.
Sur même une télé, si on a envie.
Exactement. Donc ça n'empêche pas de l'utiliser dans une configuration, on va dire, plus PC de bureau, dans une chambre. Mais le but, voilà, c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez mobile, 14 pouces, puissant, léger. Et on a une audience, en tout cas... un public de plus en plus réactif qui demande ce type d'ordinateur.
Et ça coûte combien, ce type de configuration? Est-ce que c'est déjà disponible?
Alors, ce sera disponible en mars.
Ah d'accord.
À partir de 1 800 €.
Ah oui, d'accord. Ouais. Donc on est quand même sur un prix assez premium.
Bien sûr.
Pour une machine qui l'est aussi.
C'est-à-dire, exactement, voilà, oui. Alors, en fait, le prix reflète aussi les composants qui sont à l'intérieur. On est sur un très très gros pros de dernière génération, une très grosse carte graphique de dernière génération. Voilà, c'est...
Et est-ce que cette configuration peut baisser en gamme et en tarif, à votre avis, à terme?
Au lancement, non, mais à terme, ça peut arriver. On pourrait potentiellement en avoir une encore i5 avec une autre carte graphique, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Celle qui a été annoncée, et encore i7 et en 3060.
Oui. Alors ça, c'est l'une des grosses nouveautés du CES.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez annoncé d'autre chez Acer
pour cette année? On a aussi annoncé les nouveaux Chromebooks, les Chromebooks Spin 514. On a annoncé deux versions, une version grand public, disons-nous, et une version entreprise qui se différencie par l'OS. Et qui est un tactile formatante qui peut se convertir en tablette lorsqu'on le referme complètement et qui est équipé des nouvelles générations de processeurs AMD cette fois-ci. Donc on va être sur de l'AMD 3500, on est jusqu'à 10 heures d'autonomie, écran tactile avec un traitement antimicrobien et ça va venir aussi répondre à un besoin
important.
D'étudiants, d'entreprises. Ouais.
Alors, c'est vrai que le Chromebook, je disais tout à l'heure, aux US cartonne.
Oui.
En France, c'est plus compliqué.
En France, oui, ça prend un peu plus de temps.
Pourquoi, à votre avis? Parce que les Français ont l'habitude de leur macOS ou de leur Windows, c'est ça?
Voilà, déjà, il y a une question d'habitude, de comprendre ce qu'est un Chromebook, ce que ça fait. C'est vrai qu'il y a eu une phase de lancement il y a à peu près 4-5 ans, qui a été assez déceptive, puisque... beaucoup d'acheteurs se sont rués sur ces produits en pensant que c'était des PC, Windows on va dire, et se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas du tout de la même façon. Donc disons qu'il y a eu un petit loupé à un moment. Sauf que dorénavant, le public est quand même un peu plus averti, alerte, et utilise les solutions Google. Quand on parle de Gmail, Chrome, YouTube, tout ceci fait partie de l'écosystème Google, les applications. Et c'est ce qu'on retrouve exactement sur un Chromebook. Donc aujourd'hui, le taux d'acceptation est quand même beaucoup plus élevé. Google aussi a fait un énorme travail pour expliquer ce qu'était un Chromebook, ce qu'on pouvait faire avec. Et derrière, le public se rend compte de tout ce qu'ils peuvent avoir avec un Chromebook. C'est fiable, il n'y a pas forcément à avoir besoin d'antivirus, c'est mis à jour régulièrement, tout est en cloud.
Oui, donc tout se passe par le navigateur. Partout. Après, il y a aussi un magasin d'applications.
Exactement.
Mais finalement, avec le navigateur, on fait déjà beaucoup de choses.
On fait tout. Hein. Absolument tout.
C'est ça. On parlait de Teams tout à l'heure, on peut faire un Zoom. Voilà.
L'une des spécificités aussi qui est hyper intéressante, c'est que je me connecte sur un Chromebook, je retrouve toutes mes données. Si je me connecte sur un autre, je reprends.
Et oui, c'est ça.
Si j'ai commencé un fichier et que je prends mon téléphone dans le train pour continuer à le consulter, il y a une continuité dans l'utilisation et l'accès aux données qui est assez bluffante.
Alors pourquoi le Chromebook coûte moins cher qu'un PC sous Windows? Parce que c'est des machines qui nécessitent pas autant de puissance, c'est ça?
Notamment, parce qu'il y a aussi pas mal de configurations en Celeron, en Pentium, mais on a aussi des configurations en Core i, avec maintenant des dalles en Full HD, avec beaucoup plus de puissance, puisqu'il y a un nouvel usage aussi qui est apparu, c'est que certaines applications nécessitent plus de performance. Donc, on a des modèles qui montent aussi en gamme. Mais au-delà de ça, Chromebook, l'OS est gratuit. C'est un open source.
Oui. Donc, forcément.
Il y a aussi forcément un coût déjà de base.
Il y a quelques dizaines d'euros de moins. De...
Une licence Windows, c'est quasiment 100 euros.
Ah, c'est quasiment 100
donc,
euros.
Donc, au final, vous retirez déjà le
moins minimum, c'est ça.
Exactement.
On peut jouer avec un Chromebook ou pas, Karim?
Alors, on peut jouer, oui, de plusieurs façons. Alors, soit
Il y a le cloud gaming, mais ça, bon, voilà.
Voilà. On va parler de Stadia, directement inclus.
Enfin, Stadia, c'est pas la forme en ce moment.
Non, en ce moment, c'est un peu compliqué.
Un peu compliqué, mais bon, il y a d'autres alternatives.
Et oui, après, vous avez xCloud, vous pouvez avoir pas mal de choses. Et au niveau des applications, comme sur un téléphone, elles peuvent s'installer sur l'ordinateur et être jouées sur l'ordinateur.
Et là, c'est plus du casual gaming, on est d'accord. Hein,
Oui.
Voilà, c'est
après,
ça.
Vous avez des jeux quand même assez hardcore gamer, un jeu comme League of Legends qui est maintenant sur mobile.
Et qui tourne sous
voilà.
Chromebook.
Et vous avez des jeux comme PUBG aussi qui sont des jeux très hardcore, beaucoup joués en Asie, qui sont disponibles dessus.
Karim, dernière question, peut-être un petit peu plus stratégique et qui est très intéressante, c'est en fait le tournant qu'est en train de prendre Apple. En abandonnant ses puces Intel pour proposer sa propre puce sous une autre architecture qui est l'architecture ARM avec ses puces M1. Est-ce que pour un constructeur informatique comme Acer, ça vous fait poser des questions aussi en vous disant, tiens, Apple ouvre une voie finalement avec une autre génération de processeurs, une autre architecture. Est-ce que vous allez aussi proposer de nouvelles architectures et de nouveaux ordi avec peut-être des puces ARM?
Alors, en tout cas, on n'est absolument pas dans l'optique de développer nos propres puces. Ça, c'est une évidence.
Oui, c'est le cas chez Apple. Hein.
Oui.
Mais on voit que Snapdragon commence vraiment à s'intéresser de près à ce marché.
Et en fait, on a déjà des configurations qui sont équipées en Snapdragon. Et aussi en puce Mediatek, notamment sur des Chrome, qu'on a aussi présenté l'année dernière, durant l'été, qui était aussi à destination des étudiants, puisque ça permettait d'avoir une puissance, on va dire, assez contenue, mais d'avoir jusqu'à 18 heures d'autonomie.
Et voilà, c'est ça. Alors qu'Apple est arrivé à avoir une puissance monstrueuse, une bonne autonomie, la légèreté, la compacité, etc. Enfin, toutes les cases sont cochées, là.
Non, c'est vrai qu'on voit que sur les fabricants, les constructeurs de puces, on a Intel, mais aussi AMD, qui est revenu très très fort ces dernières années. Mais aussi Mediatek, Snapdragon. C'est vrai que l'offre est plus large. Ça a aussi permis de répondre à la demande par rapport aux pénuries. Il y a des châssis qui sont passés sous Snapdragon, sous Mediatek. Donc, ça a permis de répondre un peu à tout ça. Mais néanmoins, aujourd'hui, en termes de performance, de puissance d'exécution, les processeurs Intel ou AMD restent quand même les deux grosses valeurs sûres.
Enfin, c'est pas ce que dit Apple, hein. Enfin, il y a des benchmarks qui comparent la puissance Intel
avec le M1.
Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si demain Windows devient compatible, il est déjà d'ailleurs, on est encore un peu aux prémices, mais vous pensez que ça pourrait être aussi une vague, une nouvelle vague en fait, technique, avec des futurs PC sous cette configuration?
Pour le moment, je ne pense pas.
Pas tout de suite.
À voir, oui. Pour le moment, je ne pense pas. Je pense que là, il y a, d'un point de vue stratégique, je pense qu'Apple a aussi d'autres raisons pour lesquelles ils sont passés dessus. Nous, aujourd'hui, Intel, c'est un partenaire historique. AMD aussi. Mais bon, on est quand même très majoritairement équipé de processeurs Intel. Je pense pas que ça change dans les mois qui viennent.
D'accord.
Bon, si ça se fait, ce sera vraiment dans très 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 longtemps.
Dernière petite question concernant la connectivité. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, il y a le Wi-Fi, mais il nous faut de la 4G. Et demain, la 5G est d'ores et déjà peut-être. Est-ce que ça aussi, ça va devenir quelque chose de standard, avoir une connectivité cellulaire en fait sur les PC
En tout cas, on regarde ça de très près. On a déjà sorti des modèles. Le Swift 7 Pro, il y a 3 ans, était équipé justement de 4G. Donc, c'est un ordinateur très fin, très léger, qui était à destination des professionnels. Oui. Aujourd'hui, on ne propose pas d'ordinateur avec une puce 4 ou 5G auprès du grand public. Il n'y a pas véritablement de demande. Et puis, c'est surtout un surcoût sur la machine.
C'est ça.
Et même pour l'utilisateur, il faut aussi avoir une double puce. Même pour eux, c'est aussi un surcoût.
Après, il y a l'eSIM qui arrive aussi en force.
Oui.
Hein.
Mais aujourd'hui, l'usage, il est plutôt professionnel. En déplacement, je suis dans mon train, je vais à l'étranger. Donc, on le propose sur les gammes pro. Mais on prête attention à ça. Et sur d'autres... même univers, notamment sur le gaming, où ça a aussi un intérêt.
Mais oui, surtout avec la 5G.
D'avoir un ordinateur en 5G connecté avec lequel on peut jouer n'importe où.
Voilà, permet des temps de latence très très faibles, sont compatibles en fait avec le jeu en réseau, hein, c'est ça.
C'est ça, exactement. Après, il y a des jeux qui vont nécessiter plus ou moins de bande passante, mais des jeux, prenons les jeux de cartes comme Hearthstone, on n'a pas besoin d'avoir une bande passante incroyable. Certes. Donc, au final, voilà, on y prête attention. Si on sent qu'il y a une demande, on saura y répondre. Si on voit que c'est pas le cas, on va pas aller ajouter un surcoût à des machines pour des utilisateurs qui en ont pas véritablement besoin.
Vous allez voir, vous vous adapterez à la demande en fait.
Exactement.
C'est ça. Merci beaucoup Karim. Karim Wayoun, donc le directeur marketing et communication de Acer France. Voilà, on sait un petit peu ce qui nous attend dans les mois qui viennent dans le monde du PC, un monde du PC qui renaît de ses cendres et c'est tant mieux. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous à la fois sur l'appli RMC bien sûr où de quoi je me mêle est disponible, sur l'appli BFM Business et sur 01 TV, vous le savez, sur la chaîne, mais sur 01nettv.com et sur la chaîne YouTube. Portez-vous bien, on sera là la semaine prochaine.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.